C'est Léonard.
C'est Gustave Léonard.
Ah, il est sublime.
Thank you.
Attention, quelques variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, interprété au clavecin par Gustav Leonhardt.
Voilà, ça se tient bien. Je crois qu'on peut réfléchir une minute sur la nouvelle écoute qui pourrait être faite de la musique chorale et vocale de Vivaldi et sur ce qui est comme effet produit par le clavecin. C'est un volume qui, pour moi, me convient bien mieux que les concertos, mieux que les... Enfin, voilà, c'est une question de...
Je voudrais vous poser une question. Excusez-moi,
oui,
je
vous en prie.
Est-ce que, par exemple, il y a 10 ans, vous intéressiez au clavecin, vous ?
Ah oui, oui, oui. Dès que le clavecin a commencé à revenir, ça m'a violemment ému. Et pour des raisons de conviction antipsychologique. J'ai toujours de conviction physique, précisément. J'éprouve le sentimentalisme pianistique, la dégoulinade romantique, comme une oppression, comme quelque chose qui m'agresse, qui me fiche dans une sorte
de... Vous êtes foncièrement anti-romantique.
Oui, oui, bien entendu, bien entendu. Et donc là, je suis romantique, je suis anti-romantique, je suis romantique de l'anti-romantisme, si vous voulez. Parce qu'anti-romantique, ça voudrait dire néoclassique, et je suis pas du tout pour le retour à un classicisme, pas du tout. Mais je suis pour qu'on traite à fond cette question de la répression brutale, de la terreur... de la terreur exportée par les Français d'ailleurs en Italie ou en Espagne qui a régné sur l'Europe à partir par exemple de la Révolution française. C'est un fait qu'on a été obligé de fermer la machinerie théologique qui produisait ces chefs-d'œuvre.
Alors vous m'avez confié que vous n'aimiez pas du tout peut-être Schumann et Schubert et le romantisme. Et bien, est-ce que par exemple en littérature c'est la même chose? Derlin, c'est rien.
Oh non, bien sûr, c'est pas rien. Et Schumann et Schubert sont admirables. Mais je crois qu'il faut, il faut. C'est pas le problème. Le problème, c'est cette espèce, c'est l'énigme de l'oubli qui a saisi le corps européen. Et c'est très saisissant. Moi, j'aime beaucoup Wagner, par exemple. Il me semble qu'il révèle génialement non seulement ce qui s'est passé avant comme destruction systématique de l'élaboration sacrée, mais ce qui va venir, il annonce prophétiquement ce qui va venir par la suite, et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il y a une suite logique dans ce qui est arrivé, pas par hasard, il me semble tout de même, on pourrait s'en rendre compte en profondeur, des travaux seront faits de plus en plus, à mon avis, là-dessus, pas par hasard en Allemagne.
Écoutez, vous avez lu René Girard, non ?
Oui, mais ça...
Vous savez qu'il a fait deux émissions sur ce sujet,
oui,
Wagner...
Oui, bon, très bien, très bien. Ça ne m'étonne pas. Mais je pense qu'il faudra faire de plus en plus l'histoire de ce qui est arrivé à l'Allemand et à l'Allemagne. Et donc, Wagner est, de ce point de vue, très, très révélateur. Avec Bach, vous voyez que nous sommes encore dans l'orbe de Venise et du baroque. Et alors, le clavecin m'a intéressé tout de suite. Et de même qu'un autre phénomène qui me paraît très lié, c'est la découverte d'une voix supplémentaire dans les voix, qui est l'apparition, qui m'a enthousiasmé immédiatement, de... la réapparition de la voix de Haute-Contre. Mm. Je me rappelle l'émotion que j'ai eue quand j'ai écouté les premiers Deller, et ça a ressuscité quoi, là, on sait bien, n'est-ce pas, là, à la fois Monteverdi, la musique de Purcell, admirable, et je crois qu'on a un Easy Dominos là avec James Bowman, qui va ajouter encore une note antipsychologique, mais cette fois-ci dans la voix. Pourquoi antipsychologique? Parce que le jeu sur la voix de Haute-Contre est une intervention froide et délicate dans le méli-mélo de l'affrontement sexuel, n'est-ce pas, et qui donne poussé à bout, en effet, ce qu'on sait, c'est-à-dire le charnier. Alors, la délicatesse introduite là, le retour de cette délicatesse, très étrange, parce qu'enfin, on n'aurait plus jamais dû entendre parler de cette voix évoquée.
Oui,
là encore, je m'excuse.
On parle de refaire des castrats, vous savez.
Oui, non, ça, je ne crois pas que ce soit du tout nécessaire, mais bien entendu. Mais là aussi, c'était une invention, comme vous savez, pontificale, soigneusement dosée. Et c'est pas. Et c'est, mais bien sûr.
Approuvée de
oui, oui, mais bien entendu, bien entendu. la castration, mais du moins le fait de pouvoir garder cette voix dans cet état avait été certainement une oubliée pour le 19e, ça aurait provoqué un tollé au 19e siècle. La reine Victoria n'en aurait pas voulu, n'est-ce pas? Donc, la reine Victoria aurait été violemment choquée par la réintroduction de ces voix. Et la reine Victoria, c'est quand même un bel emblème de ce qui est arrivé au refoulement humain dans une période qui s'est achevée par un désastre sensationnel. Donc je propose qu'on écoute le Nisi Dominus de Vivaldi, chanté voilà. Par James Bowman.
Avec l'Academy of Ancient Music, dirigée par Christopher Hogwood.
Oh, my God.
James Bowman chantait le début d'Uneasy Dominus de Vivaldi, accompagné par l'Academy of Ancient Music sous la direction de Christopher Hogwood. Philippe Solers, maintenant, je vois la Casa del Diavolo de Boccherini.
Oui, justement, je propose, Vivaldi meurt en 1741, je propose de regarder ce qu'il exprime. Oui, ce qui suit presque immédiatement, enfin, 50 ans après, puisque Boccherini meurt en 1805 à Madrid. Et il se trouve donc l'exact contemporain de l'écrivain que je considère comme faisant la charnière.
Je vois le vieux sadiste.
Oui, c'est ça.
Eh bien, terre, alors,
eh bien Sade, d'ailleurs élève des jésuites, bien entendu, doit ici nous retenir parce que je crois que s'il y a une musique qui signale ce que pourrait être un lever de rideau pour une scène sadienne, c'est vraiment cette Maison du Diable de Boccherini. Et j'ai toujours été extraordinairement surpris qu'on ne sache pas mettre en rapport la littérature fondamentale d'une époque avec la musique fondamentale d'une époque. Et quand on écoute ce qui va se passer là tout de suite, on voit très bien comment on peut ouvrir alors bon, Mozart, c'est la même chose. On devrait lire du Sade en écoutant du Mozart, n'est-ce pas? Ça serait convenable, je pense, aujourd'hui, au lieu de se réfugier dans des utopies ou dans des imageries, n'est-ce pas? On devrait vraiment prendre les choses au sérieux et écouter Don Juan en lisant Sade. Eh bien, La Maison du Diable me paraît être un abrégé de tout ce qui se profile là. Alors, brusquement, comme introduction du sombre, du noir, que nous venons d'entendre d'ailleurs dans la voix de James Bowman, dans ce magnifique tombé du rideau sur Venise, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est Venise le soir qui s'enfonce, enfin quand on voit ce qui se passe à Venise, quand l'eau devient bleue, puis mercure, enfin bon, c'est là il y a une... Bon, voilà la fin d'une toute une civilisation, et là nous avons l'introduction alors endiablée de quelque chose d'autre, et je crois que c'est une bonne façon de montrer ce qui va être en effet une révolution.
Alors, c'est le passage qui est d'ailleurs le même que le ballet des démons dans l'Orphée de Gluck que vous avez choisi d'entendre.
Voilà, c'est les démons, vous voyez où on est
bien,
là.
Je crois si
Goethe
s'était entendu mutuellement.
Goethe arrive, enfin voilà, toutes ces histoires de fausterie, d'apparition des diables, d'alchimie, de curiosité pour les secrets de la nature et l'énergie naturelle, pour le médiumnisme. On va voir s'allumer là, l'étincelle. Alors, l'arrivée du diable, on peut le saluer, il a le droit de rentrer, et par rapport à la messe, en effet, qu'il doit de toute façon apprécier, puisque, comme l'a dit Baudelaire, personne n'est plus catholique que le diable.
Alors, nous écoutons ce passage, c'est une symphonie, hein, c'est Symphonia con più instrumenti, en ré mineur, orchestre de l'Angelicum de Milan, dirigé par Umberto Cattini.
Thank you.
extrait de la Casa del Diavolo.